Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le sommet cette semaine des ministres des Affaires étrangères des 30 pays de l'OTAN a été l'occasion de la publication d'un document sur l'avenir de l'OTAN à l'horizon 2030. Rapport présenté mardi par le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg qui avait jugé nécessaire une telle étude après les critiques dont avait fait l'objet l'organisation, notamment par le président français qui avait évoqué l'an dernier la mort cérébrale d'une alliance incapable de coordonner l'action de ses membres. Le contexte était alors celui du retrait brutal et sans avis des États-Unis de Syrie et d'Irak, laissant le terrain libre à la Turquie, qui depuis joue en solo en Libye, à Chypre ou dans le Haut-Karabakh. Le rapport fait 138 recommandations sur tous les sujets possibles, de la posture avec la Russie, la Chine, l'Union européenne, le cyber, le terrorisme, et débouche sur un appel à une réécriture de la stratégie de l'OTAN, dont le dernier concept stratégique remonte à 10 ans. Regard sur l'OTAN alors que l'arrivée en janvier prochain de Joe Biden à la Maison-Blanche laisse espérer un réchauffement des relations entre les États-Unis et l'Europe. Quelle adaptation pour l'OTAN à l'horizon 2030 ? Nos invités par téléphone depuis Toulon, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Razou, directeur académique et de la recherche à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Mouni, en studio à Paris, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense. Bonjour.
Bonjour.
Le timing de la publication de ce rapport à l'occasion de la dernière réunion de l'année des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN est tout à fait intéressant. Il arrive au crépuscule de l'ère Trump, auquel d'une certaine manière il entendait répondre. Va-t-il donner à Joe Biden et son équipe les arguments nécessaire pour resituer l'OTAN comme le fondement de la politique sécuritaire américaine et également comme l'institution centrale pour la relation transatlantique? Je vous propose, Pascal Hausseur, de commencer à répondre à cette première question.
Oui, je pense que ce rapport il tombe assez logiquement à une période où tout le monde a conscience que le monde a changé. La post-histoire qu'on avait rêvé après la fin de la guerre froide est largement derrière nous et l'OTAN finalement revient à son cœur de métier, c'est-à-dire la grande menace perçue comme telle, en tout cas par les Américains et une partie des alliés, notamment ceux qui sont en Europe de l'Est, qui est la menace russe. Et voyant derrière se profiler un peu la menace chinoise qui est perceptible et qui est très souvent citée dans ce rapport. Donc pour moi, c'est à la fois une démarche logique qui marque la priorité russe et chinoise dans un moindre degré pour l'OTAN. Et évidemment, en creux, il y a la question turque, qui est indispensable face à la menace russe, mais qui est évidemment un problème pour les Européens, qu'avait levé le président Macron, et qui est réglé par l'absence. Le mot évidemment Turquie n'est pas prononcé, c'est normal, c'est un allié, hein, mais on sent bien que vu de l'Alliance, vu des États-Unis, il faut privilégier la cohésion de l'Alliance face à la Russie.
Alors on développera bien sûr la question turque. Jean-Pierre Mouni, effectivement, pour ce qui est des menaces et des défis, le rapport liste deux pays en particulier, Russie en première place, Chine en deuxième. C'est le rôle de l'OTAN je vais pas dire stigmatiser, mais en tout cas de pointer ces deux pays et d'en faire coucher sur le papier, là aussi, des menaces.
D'abord, il faut bien voir que ce n'est pas un document de l'OTAN en tant que tel, c'est un document d'un groupe d'experts qui a été mandaté auprès du secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg. Et il avait été plutôt, le mandat portait plutôt au départ sur la question de la cohésion politique de l'Alliance. Suite donc à ce qui s'était passé l'année dernière, effectivement, avec le brain-dead de Macron et l'attitude de la Turquie, puisque la question qui était posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire la cohésion politique de l'Alliance en 2020? Et finalement, on débouche sur un document, qui est un document, j'ai envie de dire, sur une analyse des menaces 360. Alors, il n'y a pas que ça dans le document, mais c'est un des éléments principaux du document. Et c'est vrai que c'est un document à ce niveau-là qui est très direct, qui est très franc. peut-être même beaucoup plus que ne l'était, par exemple, le rapport du groupe d'experts avant le piloté par Madeleine Albright avant le concept stratégique de 2010, le précédent. Donc après, on va voir ce que va en faire l'OTAN en tant que telle, hein, puisque là, Stoltenberg doit encore recevoir un certain nombre de contributions, d'autres contributions. Et puis, bah, il y aura un sommet de l'Alliance Atlantique l'année prochaine qui décidera sans doute, effectivement, qu'on révise le concept stratégique de l'OTAN. Mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est assez logique dans un document interne, mais c'est un document public. Donc, il va être lu en Russie, en Chine. Et c'est vrai que c'est un document qui cite le premier, les deux pays comme des rivaux, et il est exprimé très clairement que la Russie est la principale des menaces.
Alors, Pierre Razou, je me tourne vers vous. Pour préciser, il y avait donc deux choses. Hein. Ce rapport, il a été présenté dans le cadre d'une réunion au début de semaine dernière des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Et Pascal Hausser l'évoquait à l'instant, la Turquie n'est pas mentionnée comme une menace dans le rapport. Il n'empêche qu'elle a été soumise à un feu de critiques lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Elle a même été lâchée par les États-Unis. Et effectivement, la surprise est venue du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a dénoncé les manquements aux règles de l'Alliance et la politique du fait accompli menée par Ankara dans plusieurs crises régionales. Pompeo, on peut le dire, a été très cash pour sa dernière réunion à l'OTAN, en demandant à la Turquie de revenir à un comportement d'allié. Les agissements turcs avaient été dénoncés lors du sommet de Londres en 2019 par le chef de l'État français, mais à l'époque, le président Trump avait protégé et défendu le président Erdogan. La Turquie est désormais perçue comme un problème pour l'Alliance, ce qui a été nié jusqu'à présent, donc ça c'est un peu la nouveauté. Ce problème, il va falloir le régler. La question est de savoir comment, Pierre Razou.
Alors, de tout ce que vous dites, je voudrais rebondir sur deux, trois points, parce qu'en fait, ça montre bien le contexte actuel. Mon intuition, c'est que Mike Pompeo, de notoriété publique, est quelqu'un quand même de très, serviste, à la fois de très fidèle à Donald Trump, mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas se suicider politiquement pour suivre jusqu'au bout du bout du bout le perdant de l'élection.
Donc il se
Donc,
présente.
On voit bien que, mon intuition, c'est qu'il a vu le vent tourner entre guillemets et qu'il est déjà en train de préparer l'après. Donc il est en train de se dire bon voilà, il peut peut-être pas être en choc frontal avec le Congrès et avec la Maison Blanche. Et puis donc sous-entendu appelons un chat et en même temps. Je crois que ça retraduit bien la volonté américaine, toute tendance et tout parti confondu, donc en bipartisan, qui considère depuis le début, que la Turquie, ça reste le bouclier majeur de l'Alliance Atlantique sur le flanc sud. Hier face à la Russie, aujourd'hui face à la Russie et l'Iran, et demain peut-être face à la Russie, l'Iran et la Chine. Donc, l'establishment sécuritaire américain a toujours considéré que, par tous les moyens, la Turquie devait rester dans l'OTAN. Et ce même establishment voit bien que, bon, il y a un problème majeur, en tout cas, de cohésion avec plus que la politique de la Turquie en tant que telle. Je dirais que c'est plus le président Erdogan qui est directement visé par les attaques de Mike Pompeo. Et donc c'est un moyen de lui dire, sans finalement stigmatiser complètement toute la Turquie, en tout cas pas l'armée turque en tant que telle, c'est un moyen de lui dire, on veut que vous restiez dans l'Alliance et on fera tout pour que vous restiez dans l'Alliance. Deux, maintenant il faut que vous ayez un comportement responsable et que vous arrêtiez de torpiller et de saper finalement l'autorité et la cohésion de l'Alliance. Parce que et je termine sur ce point. Par exemple, on pourrait imaginer que la Russie ait intérêt à faire que la Turquie se désolidarise de l'OTAN pour affaiblir l'OTAN. On peut aussi voir l'autre côté de la pièce en se disant, après tout, c'est peut-être justement dans l'intérêt de la Russie que la Turquie reste dans l'OTAN, mais de manière à saper sa cohésion et à l'affaiblir encore plus, encore davantage.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, Pascal Hausseur, votre avis sur la question turque et le problème que pose aujourd'hui Ankara à l'OTAN. Je posais cette question à l'instant. C'est un problème qu'il va falloir régler. Et la question est comment ? Des sanctions ?
Oui, d'abord, c'est vrai que la Turquie est essentielle pour l'OTAN. Quand on regarde la carte et si on considère que la Russie est la menace numéro une, alors il faut tenir les détroits turcs, et c'est la Turquie qui les tient. Et le jour où la Turquie, si ça devait arriver, mais ça n'arrivera à mon avis absolument pas, quittait l'OTAN, ça serait une très très bonne nouvelle alors pour la Russie sur le plan strictement militaire. Lorsque vient de dire Pierre Razou, en termes de levier politique, c'est intéressant pour les Russes d'avoir encore la Turquie dans l'OTAN, mais alliée pas très fiable pour pouvoir fragiliser l'alliance. Mais militairement, c'est clair que pour vu des Américains, vu de l'OTAN, le fait de tenir les détroits des Dardanelles, c'est clé pour bloquer la mer Noire et avoir finalement une flotte russe qui ne sera jamais très importante en Méditerranée et dans les mers chaudes. Et donc c'est militairement essentiel, ça l'a été pendant toute la guerre froide, et c'est pour ça que les Turcs peuvent se permettre beaucoup de choses dans l'OTAN, beaucoup plus que d'autres alliés. Ce qui est intéressant, à mon avis, avec la sortie de Mike Pompeo, c'est que, bien sûr ça s'est fait en huis clos, mais tout le monde savait que ça allait sortir, donc tout ça a été fait à dessein, c'est que véritablement, vu des Américains, il y a un problème turc, ils peuvent plus se voiler la face. Il y a un problème parce que ça, au sein de l'Alliance, pour la cohésion de l'Alliance, les Grecs n'en peuvent plus, les Français ont quand même beaucoup parlé, et donc c'est un sujet, le mot cohésion dans le rapport qui vient de sortir est cité à toutes les pages. C'est vraiment une vraie inquiétude de Stoltenberg, c'est de maintenir la cohésion des alliés entre eux. Le deuxième point, c'est que la Turquie est extrêmement déstabilisante en Méditerranée orientale et même plus loin, et même dans toute la Méditerranée et le bassin méditerranéen. Et ça, même si c'est pas la priorité des Américains, ça peut pas ne pas les interpeller. Et puis, le plus important, c'est le jeu ambigu que Erdogan joue avec Poutine et la Russie. Alors les S-400, c'est quand même donc des missiles anti-aériens russes achetés par un allié qui lui est connecté dans le réseau de missiles antimissiles de l'OTAN. Ça pose un vrai problème opérationnel et puis un problème politique. L'intervention, et le dernier point, c'est les interventions que les Turcs font avec les Russes en Syrie, au Karabakh, même s'ils ne font pas d'intervention commune, on voit bien qu'il y a un accord, une alliance qui se matérialise de plus en plus dans cette zone. Ça pose un vrai problème de loyauté, et je pense que Pompeo a voulu marquer de façon assez ferme que les choses, la ligne rouge. Et en quelque sorte, là, je rejoins ce que dit Pierre Razou, je pense qu'il a travaillé pour l'administration suivante.
Jean-Pierre Molny.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, mais j'ai presque envie de dire, une fois qu'on en dit ça, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? La crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, on a des intérêts contradictoires. Et c'est vrai que la Turquie joue un rôle essentiel, notamment sur la question du contrôle de la mer Noire, où il y a de grandes inquiétudes avec l'attitude russe. Mais à côté de ça, les dossiers du Haut-Karabakh, le dossier syrien et le dossier libyen, auquel j'ajouterais également dossier d'Afrique de l'Ouest, hein, où la Turquie fait quand même de la déstabilisation par rapport aux positions françaises, nous, ça nous pose concrètement un problème de sécurité particulier. Et j'ai envie de dire que la cohésion de l'Alliance, elle ne doit pas se faire au détriment de certains des alliés, et notamment au détriment de la France. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement de solution, et que Erdogan, et encore une fois, c'est vraiment Erdogan et non pas la Turquie en tant que telle, continue à jouer sur ce que j'appellerais cette ligne de crête, en essayant de tomber ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire de bien rester dans l'Alliance Atlantique, mais en poursuivant ses intérêts propres, qui ne sont pas nécessairement les intérêts de tous les alliés. Et avec peut-être un compromis qui serait tout simplement d'arrêter de bloquer au niveau de l'Alliance Atlantique, et c'est ce qui est écrit dans le rapport, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui, au jour le jour, la routine, et qui est bloquée par l'allié turc.
Et dans sa relation avec la Grèce. Alors, Pierre Razou, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Pascal Hausseur, l'amiral Hausseur, quand à la sortie de Mike Pompeo sur la Turquie, disons qu'il préparait l'administration suivante, c'est donc celle de Joe Biden qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain à Washington. On a 4 minutes pour terminer cette première partie d'émission, mais que sait-on, Pierre Razou, de la façon dont Joe Biden appréhende l'utilité de l'OTAN et son potentiel?
Je crois que tout le monde se réjouit au sein de l'OTAN, tout le monde, les alliés européens se réjouissent de l'élection de Joe Biden. Hein. C'est la meilleure nouvelle de l'année pour eux. Pourquoi? Parce que finalement, Trump a passé les 4 années de son mandat à saper indirectement, lui aussi a contribué à saper la cohésion de l'Alliance. Et donc là, tout le monde voit bien qu'il va y avoir un retour, c'est business as usual, on revient à la période démocrate, qui était celle d'Obama, qui était celle des Clinton auparavant, et qui consiste à dire, bien sûr, les États-Unis sont liés économiquement, bien évidemment, mais aussi stratégiquement à l'Europe, et donc les États-Unis ne vous laisseront pas tomber. Maintenant, c'est aussi aux Européens de faire un effort en termes de burden sharing, donc il faut augmenter les budgets de la défense, et ça va pas changer. C'est-à-dire que la pédagogie de Joe Biden, sûrement, ce sera de dire, maintenant, il faut vous retrousser les manches, il faut aligner des budgets et il faut faire un véritable effort. Ce que je note aussi dans le document, et ça ressort par exemple très bien dans les programmes de recherche de l'OTAN, c'est qu'on prononce le mot UE-OTAN ou NATO-EU au moins des dizaines de fois. C'est-à-dire que on voit bien que la nouvelle administration se projette déjà dans le futur et comprend que, bien entendu, ça va être un moyen de resserrer, on va dire, les liens. On voit bien que la plupart des dirigeants européens sont prêts à se précipiter à Washington pour aller être parmi les premiers non pas baiser l'anneau du nouvel empereur américain, mais quelque part un petit peu pour faire acte d'allégeance et clairement donc essayer de passer par pertes et profits les 4 années qui viennent de se terminer pour envisager l'avenir avec, disons, un peu un retour beaucoup plus serein. C'est une bonne nouvelle aussi pour la technostructure de l'Alliance qui se dit à échéance visible, au moins pour les 2 prochains mandats, personne aux États-Unis ne remettra en cause l'utilité de l'Alliance, me semble-t-il. Après, si vous voulez, on reviendra sur l'affaire de Pompeo, parce que ce qui est intéressant aussi dans sa sortie, dans ce document, c'est que, comme vous le disiez, comme le disait Pascal Hausser, on mentionne la Russie, la Chine, mais finalement, on ne mentionne plus ni l'Iran, ni l'État islamique. Enfin, on en parle, mais disons qu'ils ne sont plus instrumentalisés comme l'archi-menace qu'il faut... il faut contrer.
L'État islamiste qui rentre dans la rubrique terrorisme. Alors Pascal Hausser, peut-être une réaction à ce que vient de dire Pierre Razou. D'abord, plusieurs éléments tout de même. On sait combien aux États-Unis la politique étrangère se fait aussi au Congrès. Et là, réponse en janvier pour connaître exactement la composition du Sénat, puisque la Géorgie doit revoter. Joe Biden est, on l'a dit, un fervent partisan de l'OTAN, et on peut espérer un resserrement des liens transatlantiques. Mais c'est peut-être aussi oublier un peu vite l'héritage de Trump. Il y a des choses qui vont rester. Et quand Pierre Razou évoque l'idée que l'élection de Joe Biden est pour l'OTAN une très bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour les Européens, là aussi il y a peut-être des doutes. On parlera peut-être de l'autonomie stratégique et l'inquiétude de la France, c'est que finalement l'Europe va être particulièrement ou risque d'être particulièrement désunie. Je garde ces questions et je les reformulerai au début de la deuxième partie. On vous retrouve Pascal Hausser, Jean-Pierre Molny et Pierre Razou après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique et l'adaptation pour l'OTAN à l'horizon 2030. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Toulon, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, Pierre Razou, directeur académique et de la recherche à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, et Jean-Pierre Moulny en studio, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense. On a terminé la première partie de l'émission avec l'intervention de Pierre Razou qui évoquait l'idée que l'élection de Joe Biden à Washington était une bonne nouvelle pour l'OTAN, une bonne nouvelle aussi pour les Européens. Je reviens sur ce que je disais, Pascal Hausseur. On sait combien aux États-Unis la politique étrangère se fait aussi au Congrès, et finalement réponse en janvier pour connaître exactement la composition du Sénat puisque la Géorgie doit revoter. Est-ce que l'élection de Biden est une si bonne nouvelle que cela pour les Européens dans leur souhait, de leur volonté d'acquérir une stratégie autonome de l'OTAN?
En fait, non, c'est pas une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va arriver dans une période un peu difficile pour l'Europe de la défense. Je pense pas que l'élection au Sénat américain va changer grand-chose, parce que sur le domaine de l'Europe de la défense, comme sur le domaine de la Russie d'ailleurs, et le domaine de la Chine, il y a un consensus aux États-Unis pour dire que la Russie, c'est la priorité, la Chine, l'autre priorité montante en matière de sécurité, et que les Européens doivent faire un effort de défense, certes, mais toujours sous les ordres des Américains, et si possible pour acheter du matériel américain. Alors pendant la période Trump, paradoxalement, son anti-multilatéralisme et son anti-alliance favorisaient en creux, en réaction, la défense européenne et une forme d'autonomie européenne dans le domaine de la défense. Aujourd'hui, cette période va être derrière nous, nous le savons, et donc on connaît parfaitement l'administration qui va venir. Tous les acteurs sont des anciens. On va revenir sur une position qui est en fait bipartisane aux États-Unis, hein, républicains ou démocrates. Les Européens doivent participer, doivent être de bons alliés, mais l'autonomie stratégique, non. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre Monnier à propos de la défense des intérêts français et des intérêts européens face aux agissements turcs, non seulement en Méditerranée, mais également en Afrique, il ne faut pas compter sur l'OTAN pour prendre cet argument et pour prendre cette difficulté en main. Ce n'est pas sa priorité. Et ça, ça a été clairement dit, à la fois par Stoltenberg, mais ça, c'est pas une surprise, par le rapport qui vient d'être sorti, et c'est la posture classique des Américains. Ce qui est étonnant, une fois encore, c'est qu'ils aient un peu brutalisé la Turquie pour lui indiquer qu'il ne fallait pas aller trop loin, mais ils n'iront pas trop loin non plus, parce qu'il faut quand même garder la Turquie à bord. Et donc, ça veut dire que face à ces autres menaces pour les Européens, la menace du flanc sud, la menace de la Turquie, l'instabilité, les tensions croissantes dans la région, qui sont importantes pour les Européens, mais qui sont tout à fait secondaires pour les Américains, il va falloir trouver d'autres façons de gérer ces menaces, et ça ne peut pas être au sein de l'OTAN. Il ne faut pas essayer de faire faire à l'OTAN ce qu'elle n'est pas prévue de faire. Il va falloir utiliser l'Union européenne ou des cadres plus divers, le G5 Sahel, le MED7, la réunion des 7 pays de la Méditerranée qui a essayé de réunir le président Macron, ou du multilatéralisme ou du bilatéralisme, mais il faudra trouver d'autres outils. Parce que l'OTAN va se concentrer, moi c'est ma conviction, sur ce qu'elle sait faire, la protection face à la Russie, un petit peu la Chine qu'on a à l'œil, et puis de l'interopérabilité, et si possible de l'interopérabilité sur les standards américains.
Jean-Pierre Moulny.
Oui, je pense que par rapport à l'OTAN, ce qui renforce principalement l'OTAN aujourd'hui, c'est le contexte stratégique, plutôt que finalement l'élection de Joe Biden. C'est sûr que plus le contexte international est tendu, plus il y a des oppositions, que ce soit avec la Russie ou avec la Chine, plus ça renforce l'OTAN, tout simplement parce qu'effectivement l'Union européenne n'a pas la capacité aujourd'hui de se défendre elle-même. Je pense que c'est un problème pour les Européens. Ce qui veut dire que tout le concept d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, je pense qu'il faut l'élargir, il ne faut pas le limiter aux questions de défense, parce que si on se concentre uniquement sur ces questions-là, on sera automatiquement renvoyé à l'OTAN et renvoyé aux Américains, et notamment effectivement à l'achat de matériel américain. Il faut bâtir cette souveraineté européenne et cette autonomie stratégique à la fois sur un renforcement des budgets de défense du fait du contexte stratégique. Et finalement, on s'aperçoit que les réactions des Européens aujourd'hui, il n'y a pas pour le moment véritablement de baisse des budgets de défense, contrairement à ce qu'on pouvait craindre avec le Covid-19.
Enfin, la messe n'est peut-être pas dite à ce propos.
En tout cas, peut-être que pour les deux prochaines années, il n'y a pas de menace peut-être réelle sur les budgets de défense. Mais en revanche, il faut bâtir toute cette souveraineté européenne et cette autonomie stratégique, tout simplement sur notre capacité européenne à agir, mais au-delà des questions de sécurité, de manière autonome sur la scène internationale, et d'inclure tout ce qui est défense, armement, etc., derrière, tout simplement, un développement technologique, industriel, et même en termes d'emploi, des pays de l'Union européenne. Et si on le fait de cette manière, je pense qu'on pourra recueillir l'approbation des pays européens, y compris ceux qui sont les plus proches des Américains.
Et tout cela veut dire aussi davantage d'unité au sein même de l'Union européenne, Jean-Pierre Molnier. La question n'est pas forcément totalement acquise.
C'est certain, et là, il va quand même se poser une question, ce qui est que on va certainement, à partir de l'année prochaine, avoir cette initiative de révision du concept stratégique de l'OTAN. Au moment où l'Union européenne a lancé son propre exercice, qui est le Strategic Compass, la boussole stratégique. Alors certes, c'est pas exactement sur le même plan, mais quand même, c'est pour définir le niveau d'ambition de l'Union européenne. Et il y a quand même un premier document qui porte également sur une analyse des menaces 360, comme l'OTAN va le faire. Et là, il apparaît quand même difficile d'avoir des analyses différentes des deux côtés. Donc nécessairement, ça limite quand même les capacités d'appréciation de l'Union européenne en propre.
Alors, Pierre Razou, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Jean-Pierre Molny. Après ça, j'aimerais qu'on parle de la Chine. Oui, Pierre Razou.
Oui, bien sûr. Oui, justement, pour pointer un artifice qui risque d'être à la fois un atout et une faiblesse pour les Européens, c'est que avec la crise du Covid et la baisse des PIB de la plupart des pays, notamment en Europe, en fait, l'année prochaine, voire même l'année suivante, on va avoir artificiellement une progression importante des pourcentages de budget de la défense. C'est-à-dire que si vous redivisez le PIB global, comme les budgets ont été fixés sur des plans pluriannuels, par exemple le budget français va passer de autour de 1,8 à 2,1 voire 2,2 d'un coup pendant 1 ou 2 ans. Et ce sera pareil un peu dans tous les États. Donc artificiellement, les Européens vont pouvoir communiquer sur le fait de regarder nos budgets sont au niveau de ce que vous attendiez, alors qu'en réalité pas du tout. Hein, les budgets ils n'ont pas bougé. Et donc il faut voir comment les uns et les autres vont instrumentaliser ça. Mais je crains que ce soit un risque parce que les gouvernements des pays européens vont dire, bah, regardez, l'effort est là puisque on est à plus de 2% ou à 2%, ce qui était le seuil fixé par les Américains, pour justement se dire, pendant ce temps-là, on va essayer d'amortir le choc de la Covid, de l'impact budgétaire. Et dans 2 ans, on sera encore plus affaibli lorsque l'activité économique reprendra, et donc en fait on s'apercevra que on n'a pas fait les investissements qui étaient nécessaires. Et comme on n'aura pas fait les investissements nécessaires, évidemment la facilité c'est plutôt d'aller acheter sur étagère. Donc ou bien des produits américains, ou bien des produits européens aussi, mais qui seront peut-être pas forcément de nouvelle génération, mais plutôt dans une logique de chercher à réduire les coûts.
La Chine, Pascal Hausser, faire entrer la compétition avec la Chine comme l'une des missions de l'OTAN, le constat est fait dans le rapport que nous évoquions en première partie d'émission, OTAN 2030. Constat est fait que l'OTAN doit dédier plus de temps, plus de ressources politiques et d'action aux défis sécuritaires que pose la Chine. Est-ce qu'on peut parler de pivot de l'Alliance Atlantique vers la Chine ?
En tout cas, oui, sur le plan défensif, ce qui inquiète d'abord les États-Unis, à travers l'affaire de la 5G, c'est l'entrée progressive des Chinois dans toutes les entreprises de technologie européennes, et à travers ça, les capacités d'espionnage industriel, et progressivement, au-delà même du siphonnage économique que ça représente vis-à-vis des États-Unis, c'est le noyautage en matière de renseignement, et de technologies de haut niveau, et la possibilité pour les Chinois de rester dans la course, voire même de passer en tête de la course dans la haute technologie, notamment dans la haute technologie de défense. Quand on voit l'entrisme chinois en Europe centrale et en Méditerranée, notamment chez les alliés. Ce n'est pas surprenant que ça choque, ça inquiète les États-Unis. D'ailleurs, ça inquiète tous les Européens qui se posent des questions de souveraineté. Le problème, c'est que beaucoup d'Européens n'ont qu'une vision très, très parcellaire de la souveraineté, en tout cas pas du tout la nôtre, parce que dans leur histoire, et ça, faut l'accepter, ils ont toujours été soumis à une tutelle extérieure, et donc ils ont appris à vivre avec des tutelles extérieures et de trouver leur bonheur comme ça. Là aussi, il faut le comprendre, en Europe, nous n'avons pas tous la même culture stratégique. Donc oui, il y a un vrai enjeu. Oui, les Chinois, on sait bien que la première étape, c'est récupérer de la technologie, puis récupérer des marchés, mais, et là, l'analyse de l'OTAN n'est pas fausse, de se projeter en disant, dans quelques années, on aura des déploiements militaires beaucoup plus fréquents, qui commencent déjà. Et puis, il y a l'inquiétude, qui est d'ailleurs soulignée dans le rapport, mais qui n'est pas fausse non plus, d'une alliance russo-chinoise. Alors, on peut dire qu'elle est contre nature, mais enfin, une alliance anti-occidentale. Et là, l'OTAN se retrouve dans un registre assez classique, finalement, de l'alliance de l'Occident contre les gens qui sont contre l'Occident. Donc, à la limite, c'est un créneau assez classique pour l'OTAN. Je reviens sur le point précédent qui fait lien avec cette question-là, qui est les équipements de défense. L'autonomie stratégique, elle s'appuie sur des équipements, des capacités autonomes d'évaluation, de frappe, d'action militaire. Et il y a quelque chose qui a énormément chagriné les États-Unis, c'est le Fonds européen de défense. Cette volonté qu'on avait réussi à monter, nous Français, avec les Allemands notamment, pour développer une économie de défense autonome avec un financement des innovations. Et ça, c'est clair qu'à mon avis, l'administration Biden, un de ses objectifs, de ses sous-objectifs dans les années qui viennent, c'est de siphonner ce fonds au profit des industriels américains.
Jean-Pierre Monnier, un commentaire ?
C'est clair qu'un des instruments principaux de l'autonomie stratégique, je pense que c'est ce Fonds européen de défense. Maintenant, sur la question chinoise, oui, c'est vrai que quand même, c'est la première fois que la Chine est clairement...
pointée du doigt comme sujet d'inquiétude.
Pointée du doigt, voilà, comme une menace potentielle. Alors, le terme menace n'est pas utilisé, c'est le terme rival, mais on a quand même au départ une alliance militaire. Et ça va poser quand même le problème de la question de l'autonomie de l'Union européenne, mais tout simplement... dans la compétition Chine-États-Unis. Il ne faudrait pas non plus que les pays de l'Union européenne se retrouvent coincés, si je puis dire, dans une sorte de conflit direct Chine-États-Unis qui passerait par le biais de l'OTAN. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien voir que l'Union européenne, et en tout cas la Commission européenne, n'est pas naïve sur ces questions-là. Les premiers instruments de défense contre les investissements, et en fait les investissements chinois, ont commencé au niveau de la Commission européenne. Il y a quand même un règlement qui est passé sur le screening des investissements étrangers. On voit bien que tous les pays de l'Union européenne sont en train de durcir leur législation sur le contrôle des investissements étrangers. Les Britanniques viennent d'ailleurs de faire un projet de loi récemment pour durcir également leur législation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de naïveté à ce niveau-là et que finalement, un des instruments principaux peut-être de la protection des Européens vis-à-vis de la Chine, elle doit passer par l'Union européenne et elle doit passer par des instruments qui ne sont pas principalement des instruments militaires. Et je pense que c'est la meilleure façon d'engager le dialogue avec les Chinois, c'est-à-dire tout simplement de négocier sur toutes les réglementations, commerce, droit de propriété, etc. Et de le faire par l'instrument qui est, j'ai envie de dire, le plus approprié et également le plus fort, qui est l'Union européenne et la Commission européenne, plutôt que par l'OTAN.
C'est ce que disait Pascal Losser précédemment en évoquant l'idée qu'il y avait d'autres outils que celui de l'OTAN pour régler un certain nombre de questions. Alors, j'en reviens, Pierre Razou, à ce rapport. On a vu et on les a énumérés les pays Russie, Chine évoqués comme des menaces. Alors, il y a plusieurs dossiers sur lequel ce rapport estime que l'OTAN devrait se positionner. Alors, il y a les nouvelles technologies. Avec l'idée que l'OTAN devrait tenir un sommet digital réunissant gouvernement et secteur privé. Le terrorisme, on l'a dit rapidement, avec l'OTAN qui devrait intégrer de façon plus explicite la lutte contre le terrorisme dans ses tâches centrales. La politique à l'égard du Sud, Pascal Anser en a dit quelques mots tout à l'heure, avec ce constat de la nécessité d'une approche plus consistante, claire et cohérente vis-à-vis du Sud, en s'occupant à la fois des menaces traditionnelles émanant de cette région comme le terrorisme, et des nouveaux risques, comme la présence croissante de la Russie et dans une moindre mesure la Chine, aussi le contrôle des armements, le cyber. On a le sentiment que ce rapport, effectivement, c'était une façon de voir les choses dans le grand cercle, hein, c'est le fameux 360 que vous évoquiez, Jean-Pierre Molny, mais finalement, j'ai l'impression que vous êtes d'accord tous les trois pour estimer qu'il y a des sujets sur lesquels l'OTAN doit effectivement prendre position et puis développer des outils, puis d'autres peut-être moins. Pierre Razou.
Je crois aussi que ce rapport, dans sa diversité et paradoxalement sa franchise, il illustre les tensions ou du moins les discussions très vives qu'il y a au sein de la technostructure de l'OTAN, parce que l'observation que je fais, c'est quand on discute avec eux, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, finalement, il y a un peu trois générations, si vous me passez l'expression, de technocrates otaniens, de la technostructure, qui cohabitent. Et il y a ceux qui ont été finalement façonnés par la guerre froide, qui continuent à réfléchir en termes de menaces russes, systématiques, etc. Et qui, justement, se disent, si la Chine renforce la menace russe, bah, c'est encore plus nous qui devrions avoir raison, etc., etc. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, pour eux, c'est plutôt la Chine qui renforce la Russie, alors que les stratèges globaux se disent, non, en fait, c'est la Chine qui est la vraie menace et qui est en train de vassaliser indirectement la Russie. Il y a une deuxième génération de fonctionnaires et de l'OTAN qui a été formée, finalement, après la guerre froide, sur les nouvelles missions, la gestion de crise, l'interopérabilité, les interventions de maintien de la paix ou en tout cas de stabilisation, et qui est aujourd'hui finalement un peu perturbé par le monde que décrivait Pascal Hausser, qui est celui du retour du rapport de force de la géopolitique, parce que finalement ça brouille leur logiciel. Et il y a une troisième génération de jeunes fonctionnaires ou militaires qui rentrent dans la structure, pour qui finalement, oui c'est évident, la menace c'est la Chine. Et donc, en fait, on a ce patchwork de trois visions un petit peu différentes qui essayent de s'harmoniser autour de ce rapport, avec en plus tout le monde qui est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut regarder de manière beaucoup plus détaillée le Sud et sans doute revisiter les partenariats actuels. Il y a 10 ans, les maîtres mots des partenariats au sein de l'Alliance Atlantique, c'était le dialogue méditerranéen et l'initiative de coopération d'Istanbul. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. Et quand on regarde les propositions qui ont été faites dans le rapport, c'est plutôt pour élargir au Sud, intégrer le Sahel, remodeler les partenariats, faire des partenariats ad hoc, contenir l'Iran. Enfin, on n'est plus du tout dans ce qui était le core business de l'Alliance il y a 15 ou 10 ans.
Pascal Hausser, en guise de conclusion.
En guise de conclusion, je pense que cette analyse 360, c'est un peu l'exercice obligé. Moi, mon sentiment, c'est que l'OTAN va se recentrer sur la priorité américaine du moment, Russie-Chine. Russie, parce que c'est presque un atavisme, pour les Américains aussi, et donc pour l'OTAN. Et Chine, parce que c'est la menace montante, et c'est comme ça, ça fait consensus à Washington. Plus le côté économie de défense, technologie, ça c'est sûr. Hein, le but, c'est que quand même l'industrie de défense américaine fonctionne bien. Mais nous, Européens, et nous, Français, on a des menaces régionales très fortes qui sont considérées comme complètement secondaires par Washington, mais qui, nous concernent. La déstabilisation générée par les Turcs, comment va tourner le Proche-Orient, qui se passe au Maghreb, en Libye, et dans la bande sahélo-saharienne, et puis même au plus au sud, cette tension croissante que nous percevons, ça nous concerne. Et l'OTAN n'a pas les outils, et ça ne sera pas la priorité du chef de l'OTAN, que sont les États-Unis. Donc, c'est là que plus la pluralité de menaces, finalement, il y a des réponses très différentes. Jean-Pierre Meunier le disait, des réponses économiques, et là c'est l'Union européenne, des réponses culturelles. Il va falloir qu'on s'attaque très fortement aux batailles des représentations, qui sont un énorme enjeu pour la sécurité de demain, notamment en raison des flux migratoires, etc. Il y a bien sûr aussi l'action militaire. Et il y aura besoin de capables d'utiliser des forces armées en dehors du cadre de l'OTAN. Et donc, pluralité de menaces, pluralité de réponses, pluralité d'outils. L'OTAN, l'Union européenne, en espérant que, on aura du mal, il ne faut pas se leurrer, de fédérer l'Union européenne derrière une volonté politique, au moins une partie de l'Union européenne. Et puis, il y a d'autres pays qui commencent à intervenir. On voit les Émirats qui interviennent en Méditerranée, on voit l'Égypte qui a des velléités. Il va falloir s'habituer à avoir des outils ad hoc pour régler les problèmes qui sont les nôtres et qui sont les nôtres pour les 15 ans qui viennent.
Merci, amiral Hausseur. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Merci également à Pierre Razou, directeur académique et de la recherche à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, et Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste des questions de défense. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée au Moyen-Orient. À demain.